parole du jour avec le Père Willem.
Le serviteur défiguré. Dans le livre de Job se retrouve l'articulation entre laideur et malédiction divine dont nous avons parlé dans l'émission précédente. Défiguré par un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Ses amis ont du mal à le reconnaître. Voilà la situation de Job. En tout cas, pour eux, la chose est claire, pour ses amis. Si Job est là, sur son tas de fumier, c'est qu'il a dû provoquer la malédiction divine par ses fautes. Et pourtant, Job refuse d'identifier son malheur et un éventuel péché. Il va même jusqu'à proclamer son innocence. La voix de Job n'a pas fini de nous toucher, car elle laisse ouverte la grande question de la souffrance innocente, de la laideur qui déshumanise au-delà du désespoir. Le siècle dernier, déjà le nôtre, nous donne d'innombrables exemples dans les dissensions de l'humanité par les bourreaux terribles que nous avons connus jusqu'à ce jour encore aux États-Unis, envers ce drame d'Orlando et aujourd'hui encore ce qui s'est passé dans les Yvelines avec ces deux policiers qui ont été assassinés. C'est terrible, cette laideur qui s'impose par les bourreaux qui deviennent eux-mêmes laideurs. La laideur comme la souffrance peut être le signe d'une punition divine, d'une épreuve qui mène plus loin. Les prophètes emploient à ce sujet de mujar ou discipline solitaire, discipline qui rend beau et qui redonne la vie. Il s'agit non pas d'un abandon de Dieu, il est le fidèle par excellence, mais d'une pédagogie divine. Je la déshabillerai toute nue et la mettrai comme au jour de sa naissance. Je la rendrai pareille au désert. Je la réduirai en terre aride. Je la ferai mourir de soif. Voilà ce que nous rapporte Osée au chapitre 2. Dieu exerce une purification. L'époux dont parle Osée a perdu tout ce qui faisait sa beauté. Ses anciens amants ne la reconnaissent plus, et pourtant, Dieu, lui, va la reconnaître et va lui parler au cœur. Le serviteur souffrant participe aussi de ce symbolisme. Oui, comme une racine en terre aride, si la laideur devient un lieu de rencontre avec Dieu, alors cela change déjà les perspectives et empêche de tracer une frontière trop net entre la beauté, la bénédiction, la laideur ou la malédiction. Le serviteur souffrant, quant à lui, ne mime pas une situation de châtiment. Il apparaît comme l'exemple type de l'homme châtié par Dieu. Sa laideur et sa souffrance deviennent ses accusatrices. Pour être ainsi défiguré, il faut que son péché soit bien lourd. Mais voici qu'il est innocent, nous dit Isaïe. Et sa traversée de l'inhumain va rendre visage humain non seulement à Israël, mais à toutes les nations. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Voilà ce que nous rappelle Isaïe, chapitre 53. Oui, cependant, le serviteur ouvre des horizons plus évangéliques. C'est parce qu'il est innocent qu'il peut vivre jusqu'à en mourir. jusqu'à mourir l'atroce laideur de la victime et celle non moins atroce du bourreau. C'est la victime et le bourreau que le serviteur délivre de leur inhumanité et qui les défigure. C'est parce qu'ils ont lu leur propre défiguration sur la face du serviteur que, passé le premier moment de l'épouvante, ils l'ont reconnu et se sont trouvés délivrés. N'est-il pas possible également, en dehors d'un contexte de culpabilité, de découvrir sur son visage, dépouillé de toute apparence humaine, le poids des angoisses de l'homme, de ses peurs? Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. L'angoisse n'est pas source de beauté, et lorsque nous allons voir du côté de notre identité souveraine, il est certain domaines inquiétants et non dissibles qui nous entraînent plus à fuir qu'à contempler. Ce n'est pas tous les jours que nous affirmons joyeusement avec le psalmiste « Merveille que je suis, merveille que tu ouvres, merveille que tes œuvres. » Le psaume 118. Par son retournement inouï, le serviteur, oui, vraiment le serviteur Jésus, sans beauté ni éclat, pour attirer nos regards, dévoile l'épaisseur de la gloire de Dieu, sa gravité au sens littéral, alors que nul ne pouvait voir la face de Dieu sans mourir, le visage du Christ entrant dans la mort, se propose désormais à tout homme comme une théophanie vivifiante. Le texte de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, verset 5, insupportable lorsqu'il est lu dans une perspective doloriste et mutilante, se déroule en fait comme le contrepoint du texte d'Isaïe à travers le double mouvement de la kénose, c'est-à-dire de l'humiliation et de la gloire. Celui devant qui on se voile la face d'horreur et de dégoût, et celui qui est et en qui Dieu se dévoile, touchant le fond de la laideur et de la déréliction, Jésus ne cesse d'affirmer sa foi dans la source qui est sa vie, le Père. Le Père qui est le Père de tous les êtres humains. Nu jusqu'au silence, il n'est plus que relation. Tension extrême vers la présence du Père. Témoignage de cette présence. Ainsi brise-t-il le cercle de l'inhumain en se recevant d'un autre, alors que tout concourt à l'enclore dans la laideur, la souffrance et la mort. Nié par ceux qui le tuent, il ne réfute pas cette négation. Il la prend à son compte et en fait le lieu d'une relation nouvelle, toute nouvelle à Dieu, aux hommes et à l'univers. Beauté et laideur ne sont plus à vivre en tant que valeur projetée face à l'homme à titre de modèle passif et négatif. Elles ne sont pas non plus à vivre à titre de catégorie constitutive des êtres et des choses comme telles déterminantes. Désormais, le beau et le laid sont à vivre dans leur humanité, c'est-à-dire dans leur ambiguïté, en sachant que la laideur la plus défigurante qui soit ne peut faire fuir la présence mystérieuse qui demeure au cœur de l'homme. Et pour qui a décidé de faire de sa vie une réponse à cette présence qui le précède de toute sa gratuité, le serviteur Jésus manifeste que la responsabilité de la beauté nous incombe par le biais de notre regard. Le regard de Jésus est un regard créateur. Il ne fige pas l'autre dans son apparence, il ne le juge pas, mais il le fait émerger. Il fait émerger l'être secret de chacun, non pour en prendre possession, mais pour le révéler à lui-même. Et dans ce mouvement de révélation, transparaît la lumière de l'amour. Nous avons à faire advenir la beauté de l'univers en lui révélant le feu dont il se nourrit, celui de l'amour.